Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
50 milliards d'euros d'économies, une somme vertigineuse. La Cour des comptes place la barre très haut. Son dernier rapport invite l'exécutif à redresser d'urgence les finances publiques.
Aujourd'hui, nous avons le plus haut taux de dépenses publiques de la zone euro, un déficit qui est parmi les plus élevés. Et donc tout ça, aujourd'hui, oui, c'est sérieux, nous sommes au pied du mur. Nous ne pouvons plus différer cet effort, nous l'avons trop fait.
Sauf que 50 milliards d'euros d'économies à trouver, c'est bien plus que ce que le gouvernement a annoncé le mois dernier.
Nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. Comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales, eh bien il faut dépenser moins. C'est l'État qui se serre la ceinture.
Mais jusqu'où faudra-t-il se serrer la ceinture? Car tous les indicateurs sont au rouge. Pas de budget à l'équilibre, une vie à crédit et un déficit public autour des 5% du PIB. Dans sa boîte à outils, le gouvernement dispose de deux principales options pour inverser la tendance, tailler dans les dépenses ou augmenter les impôts. À l'Assemblée hier, Éric Coquerel a invité l'exécutif à récupérer en priorité ce qu'il appelle les recettes abandonnées aux plus riches, comme les entreprises du CAC 40 qui viennent d'enregistrer des profits records.
La question n'est pas tant d'augmenter les impôts, mais d'arrêter de mal et injustement les baisser. Il est effectivement temps de mettre à contribution les détenteurs de capitaux qui ont accumulé un niveau de richesse jamais égalé grâce à une fiscalité favorable et des optimisations fiscales offertes au multinational.
Alors faut-il augmenter les impôts? Comment économiser 50 milliards d'euros dans les dépenses de l'État, tandis que des services publics ont déjà du mal à fonctionner? La France est-elle vraiment au pied du mur?
Qu'en pensent nos trois experts? Erwan Tison, bonsoir, économiste.
Bonsoir.
Directeur des études de l'Institut Sapiens, un institut libéral, on peut le dire. Selon vous, on paye 40 ans de mauvaise gestion de l'argent public, il faut tailler dans les dépenses, mais pas de manière aveugle. Il y a des économies à faire, ajoutez-vous, dans les dépenses sociales, par exemple les retraites. À côté de vous, ça le fera sans doute bondir. Michaël Zemmour, économiste, vous enseignez à l'Université de Lyon 2. Votre livre « Le système français de protection sociale », coécrit avec deux autres économistes, est paru aux éditions de La Découverte. Vous considérez que lorsqu'on baisse certaines dépenses sociales, on fait augmenter la facture privée, par exemple, en matière de santé, on pourrait remettre en question certaines baisses d'impôts coûteuses et pas forcément utiles, notamment en ce qui concerne les impôts des entreprises. Et à côté de vous, Béatrice Mathieu, bonsoir madame, grand reporter à l'Express en charge des dossiers économiques. Selon vous, la France est très endettée, elle n'est pas en faillite, ce n'est pas l'Argentine, il faut faire des économies. Mais ajoutez-vous, on se heurte au consensus social. Politiquement, chaque milliard d'économies est plus que difficile à arracher. Alors, on va démarrer le débat avec le chiffre du jour.
Oui, un gros chiffre, hein, le niveau de la dette publique qui devrait atteindre 3 200 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Et elle ne cesse de monter, hein, cette dette, avec une accélération récente liée aux dépenses Covid, plus 800 milliards en 4 ans. Erwan Tison, est-ce que c'est vraiment grave tout de même?
Ce n'est pas le montant en tant que tel qui est grave. Bien sûr qu'il est impressionnant, bien sûr qu'il pose plein de questions. Ce qui est important, c'est de voir la soutenabilité de cette dette. Et notamment, combien est-ce qu'elle nous coûte chaque année? Il faut savoir que cette année, la charge de la dette, donc les intérêts que nous devons payer sur cette dette, vont être d'environ 50 milliards. En 2027, ce sera 75 milliards d'euros.
Parce que les taux d'intérêt ont augmenté.
Parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Et encore, ils sont relativement contenus par rapport à ce qu'on a pu connaître. Ça veut dire que le gouvernement, d'ici la fin du quinquennat, va dépenser 250 milliards d'euros dédiés exclusivement au remboursement de la dette. Donc quand on voit toutes les transitions qu'on a réalisé. Le rapport Pisani-Mafous nous dit qu'on a 60 milliards d'euros par an dédiés, qui doivent être dédiés à la transition énergétique. On perd clairement, on perd de l'argent public, nos impôts quand même, notre productivité à chacun, qui sont dédiés uniquement dû à la facture de la mauvaise gestion de ces 40 dernières années.
– Michaël Zemmour, est-ce que vous entendez cet argument justement que c'est un peu de l'argent jeté en l'air parce que justement on doit rembourser, que ça nous coûte de plus en plus cher ?–
Alors jeté en l'air, non, c'est un prix. On a une dette et ce que nous coûte cette dette, c'est les intérêts qu'on paye chaque année. Est-ce qu'il faut s'en moquer? Non. Il faut regarder combien elle nous coûte, il faut s'en occuper. Par contre, ce qui est un petit peu gênant, c'est d'en faire la mère des batailles, l'objectif privilégié auquel seraient subordonnés tous les autres. Mmh. Et c'est un peu ce qu'on a vécu ces dernières semaines avec la dramatisation, un plan d'économie annoncé de 10 milliards.
Par Bruno Le Maire, il y a quelques semaines.
Voilà, mmh. Et donc les défis auxquels on a à faire face, il y a la transition écologique, il y a des enjeux d'éducation, de vieillissement de la population. Et si on met en avant la dette comme l'objectif à résoudre en particulier, alors que c'est un paramètre de gestion de l'économie, on risque de faire des erreurs. On a un peu toutes et tous en tête ce qui s'est passé après la crise de 2008, où la dette publique avait été très mise en avant dans tous les pays de l'Union européenne. Tous les pays avaient mis le pied sur le frein très rapidement de la dépense publique, et ça avait aggravé la crise. Donc c'est un paramètre à surveiller. Effectivement, ça coûte de l'argent. Pas si cher que ça aujourd'hui, parce que les taux d'intérêt sont bas, mais cher quand même parce que la dette est volumineuse. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les taux d'intérêt augmentent. Donc, il faut le surveiller, il faut avoir un plan, mais pas forcément mettre ça comme l'enjeu principal.
Béatrice Mathieu, est-ce que vraiment ça sert de crier au loup? C'est vrai qu'on a finalement le sentiment qu'il ne se passe rien de si terrible depuis qu'on nous dit qu'on est en danger, finalement.
Alors, j'ai retrouvé la date, le 21 septembre 2007. Qu'est-ce qui se passait le 21 septembre 2007 en Corse? On avait le Premier ministre de l'époque, François Fillon, qui disait, il faisait un déplacement en Corse, il disait « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Alors, il y a beaucoup d'années qui sont passées, beaucoup de crises.
Et on est toujours là, il n'y a pas de faillite.
Et on est toujours là.
Bon.
On
a eu depuis 50 ans.
Voilà, on a eu la crise de 2008, le Covid, la crise énergétique, le quoi qu'il en coûte. Et la France n'est toujours pas en faillite. Alors, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas grave. Mais la dramatisation que l'on a fait à certaines époques fait qu'aujourd'hui, pour une grande partie de la population, en fait, un milliard, qu'est-ce que ça vaut? On peut trouver facilement un milliard. Et donc, du coup, la question de la valeur du milliard pose beaucoup de questions, surtout quand on se dit qu'il faut faire des économies.
Alors, vous évoquez la dramatisation dans la manière dont François Fillon avait annoncé cet État, la France en faillite. Autre dramatisation, mais c'était un peu plus tard, c'est en 2012, c'est l'archive, on va vous la soumettre, la France perd son triple A, donc en 2012, un club absolument lustré et magnifique auquel elle appartenait depuis 1975, regardez.
Il a préféré porter lui-même la mauvaise nouvelle. François Baroin, hier soir sur notre plateau, confirme une rumeur qui enfle depuis quelques heures.
Oui, je vous confirme que la France a reçu, comme la plupart des pays de la zone euro, une modification de sa notation. C'est un abaissement, un changement de note d'un cran.
Et en fin de soirée, le communiqué officiel tombe à New York. L'agence de notation Standard & Poor's abaisse la note souveraine de la France, qui perd son triple A, pour devenir AA+, avec perspective négative. En clair, la note pourrait être encore dégradée dans les prochains mois.
Alors depuis, on est passé à AA, Erwan Tison, mais on peut toujours emprunter sur les marchés et on est toujours solvable.
Oui, bien sûr, et pour la petite anecdote, d'ailleurs, notre taux d'intérêt actuel est plus bas quand on est à AA que quand il était à AAA.
Donc il vaut mieux être à AA.
Non, mais c'est un petit peu du folklore, la notation.
Ce
qui est intéressant de voir derrière, c'est quels sont les mécanismes réellement liés à ce taux d'intérêt-là. Vous avez, premièrement, le montant de la dette. Aujourd'hui, on est quand même relativement bien protégé par deux facteurs qui sont l'euro et l'Allemagne. Oui. L'Allemagne n'émettant pas énormément de dettes, la plupart des gens qui ont une appétence pour de la dette en euros vont se tourner directement vers la France, le deuxième plus grand émetteur, en tout cas en termes de PIB. Donc, pour l'instant, on est relativement protégé. La question, c'est tout, pour l'instant, tout va bien, mais c'est un petit peu ce qu'on se dirait si on était au 40e étage, en ayant sauté du 100e, en voyant effectivement le sol se précipiter. La dette publique, il faut bien savoir que c'est aujourd'hui un outil économique extrêmement puissant. On l'a vu, c'est ce qui a sauvé notre économie pendant la crise du Covid. C'est ce qui a permis d'amortir le choc énergétique. La nécessité d'avoir une gestion saine de notre dette, c'est pour justement réarmer quelque part cet outil-là et pouvoir le réutiliser à loisir lors de la prochaine crise qui, à mon avis, enfin, en tout cas, il y a des certitudes sur le fait qu'on aura des crises. Oui.
Donc, où est-ce qu'on taille?
Ben voilà, Michael Zemmour a posé la question à Michael Zemmour. Est-ce qu'on taille? Voilà. Parce qu'en même temps, vous nous dites, bon, c'est pas si dramatique, mais est-ce qu'il faut tailler ou pas du tout? On reste raccroché.
Dans les dépenses, bien sûr, pas tailler là. Surtout pas en ce moment.
C'est pas forcément une bonne idée de tailler dans les dépenses. Une des raisons pour laquelle la question de la dette revient dans l'actualité, c'est qu'en fait, la croissance n'est pas très forte, voire elle est même assez faible. Et donc, souvent, on réduisait la dette, et ça marchait assez bien, parce que la taille de l'économie augmentait, donc ce qu'on avait emprunté, relativement à la croissance de l'économie, diminuait. Et là, on arrive dans une période où tout le monde commence à reconnaître que on n'a pas eu beaucoup de croissance dans les 20 dernières années, on n'en aura peut-être pas dans les 20 prochaines. Et du coup, il y a deux façons de réagir à ça. La façon du gouvernement, c'est de dire on gagne moins, on va dépenser moins en argent public. Mais on peut aussi se demander, est-ce que dans le monde de demain, on va avoir besoin de moins d'éducation, de moins de santé, de moins de transition écologique? C'est pas sûr. Probablement qu'en fait, ces aspects-là vont prendre plus de place dans l'économie, peut-être au détriment de la dépense privée, du tourisme, des loisirs, etc. Et donc, baisser les dépenses publiques aujourd'hui, c'est peut-être pas faire face aux dépenses d'avenir d'une part, et d'autre part, pour les ménages, ce que vous disiez en introduction, ça peut coûter plus cher. Mmh. Si vous me laissez juste vous donner un exemple, dans les 20 dernières années, dans l'enseignement supérieur, il y a eu un afflux d'étudiants. Et les universités n'ont pas augmenté leur nombre de places. Donc on n'a pas augmenté la dépense publique. On disait, OK, on est sérieux. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Se sont développés à côté des établissements privés que les ménages payent de leur poche. Et du coup, à ne pas vouloir augmenter la dépense publique, ben on augmente la facture pour les ménages. Mmh, mmh. Donc limiter les dépenses, ce n'est pas toujours un bon calcul.
Mmh. Béatrice Mathieu, c'est un bon calcul ou pas de limiter les dépenses ?
Alors moi, je pense qu'il faudrait d'abord réfléchir à l'efficacité de la dépense avant de penser à l'augmenter ou à la diminuer. Mmh. Et cette efficacité de la dépense, elle se voit dans l'éducation, elle se voit dans la santé, elle se voit dans la justice, elle se voit dans la santé, elle se voit évidemment partout. Et quand on fait des comparaisons avec certains de nos partenaires européens, et notamment l'Allemagne, quand on prend ne serait-ce que la dépense éducative et les performances, on a beaucoup parlé des performances PISA, évidemment, on peut se poser la question de l'efficacité.
Parce que les performances PISA ne sont pas très bonnes.
Ben voilà, parce que les performances PISA ne sont pas très bonnes.
Ça veut dire qu'en gros, on n'en a pas.
Et donc les Français se disent, on paye beaucoup d'impôts, le taux de prélèvement obligatoire est à un niveau très très élevé, et en face, on a des déserts médicaux, on a des services publics dégradés. Ce qui pose un problème essentiel d'ailleurs pour presque la démocratie, c'est le consentement à l'impôt qui en fait se lézarde au fur et à mesure que l'efficacité de cette dépense publique est de moins en moins bonne.
Ouais. Alors s'il faut économiser, trouver 50 milliards d'ici 2027, où est-ce que vous les trouvez ? Vous, Erwan Cizeau.
On a trois heures.
Non, mais concrètement.
Non, déjà, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, et ce qui a été souligné est essentiel, c'est la culture de l'évaluation qui est complètement absente en France. On ne peut pas aujourd'hui annoncer des baisses de dépenses de manière complètement aveugle, comme c'est le cas sur les pathologies chroniques, alors qu'elles concernent quand même, on a quand même trois fois plus de chances d'être concerné quand on fait partie des 10% les plus pauvres que les 10% les plus riches. On ne peut pas s'attaquer au compte personnel de formation alors qu'on a un besoin de formation parce que la productivité française est en chute libre. On ne peut pas annoncer comme ça des mesures purement comptables sans se poser la question de l'effet qu'il va y avoir derrière, sauf si l'horizon, c'est uniquement le mois de septembre avec la prochaine notation. Donc, ensuite, par contre, une fois qu'on a fait ça, on a quand même quelques évaluations sur certaines dépenses. Quand on compare, on va faire la comparaison européenne. La France dépense à peu près, sur le périmètre de son État, à peu près la même chose que les autres pays européens. Alors, qu'est-ce qui explique le surplus de dépenses publiques ?
Ça veut dire quoi, le périmètre de son État ? C'est les fonctionnaires, principalement, le fonctionnement ?
Voilà, principalement, quand on regarde les dépenses publiques de l'État, en mettant de côté les dépenses sociales, on dépense à peu près la même chose que les pays européens. La différence se situe principalement dans les dépenses sociales et dans les retraites. On dépense 100 milliards d'euros en plus chaque année, par an, en moyenne, à périmètre constant, que la plupart des pays européens. Deux petits chiffres. Le 1er février, on a choisi de réindexer les retraites sur l'inflation. Ça a coûté 14,5 milliards d'euros. Et de l'autre côté, on diminue d'un milliard d'euros.
Donc,
il ne fallait pas indexer les petites retraites sur l'inflation ?
Alors, les petites retraites, bien sûr, mais en quoi réindexer une retraite à 2500, 3000, 3500 euros qui nous coûte justement, je rappelle en plus que les retraités ont un taux de CSG qui est un point inférieur à celui des actifs, ce qui nous coûte aussi 4 milliards par an. Mais en quoi, justement, dans une période où il faut se serrer la ceinture, est-ce que ce serait aux salariés de payer par une baisse de leur dotation en formation, aux étudiants et aux jeunes de payer par une baisse de leur dotation aux universités, ou de sacrifier certains budgets écologiques pour maintenir le budget d'une population qui est objectivement la plus riche aujourd'hui de France et qui en plus a un taux d'épargne de 29%.
Mais Michael Zemmour, vous pensez quoi justement sur les retraites quand on dit qu'il ne faut pas taxer, on ne peut pas donner à tout le monde la même chose, une retraite de 7000 euros par exemple, en effet lui faire la même concession.
Je ne crois pas qu'on donne à tout le monde une retraite de 7000 euros. La comparaison avec l'Allemagne est un bon exemple. En France, on dépense plus pour les retraites que dans d'autres pays pour différentes raisons. Une des raisons, c'est qu'elles sont un peu plus protectrices et un peu plus égalitaires que dans d'autres pays. Mais l'autre raison, c'est que la plupart des autres pays ont une partie de retraite publique et l'autre partie privée. Ouais. Et donc, quand on compare avec l'Allemagne, il y a une grosse partie des classes moyennes et supérieures en Allemagne cotisent pour une retraite privée. Mmh. Et les classes populaires n'en ont pas parce qu'elles n'y ont pas accès. Et donc, voilà, on compare de la dépense publique et de la dépense privée.
On va évoquer avec vous, Anna, le gouvernement qui annonce de nouvelles dépenses non prévues au budget. Et ça s'accumule.
Oui, des annonces choc depuis le mois de janvier pour calmer la colère des agriculteurs, celle des hôpitaux et celle des fonctionnaires qui menacent de faire grève pendant les Jeux Olympiques. Alors pour les agriculteurs, au total, c'est 400 millions d'euros d'aides qui ont été promises avant le salon de l'agriculture, un fonds d'urgence pour les viticulteurs, un fonds d'urgence pour les agriculteurs bio et un paquet d'aides fiscales et sociales pour les éleveurs. Pour les hôpitaux, le ministère de la Santé a débloqué une aide exceptionnelle de 500 millions d'euros pour soutenir les établissements qui étaient en difficulté financière. Du côté de la fonction publique, le ministre Stanislas Guérini a lui aussi sorti le chéquier. Riquier. Il vient d'annoncer des primes pour tous les agents de la fonction publique qui seront sur le terrain. Pour les gendarmes et les policiers, elles pourraient atteindre 1900 euros. Et donc, le coût total de cette opération, c'est 1 milliard d'euros. Et à cela, il faut encore rajouter les 3 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine qui ont été annoncés par le chef de l'État le mois dernier, qui sont inclus dans l'accord de sécurité entre Kiev et Paris, qui a d'ailleurs été approuvé hier par l'Assemblée nationale et le Sénat. Michaël Zemmour, finalement, est-ce que ce n'est pas dans notre culture française, voilà, d'éteindre les incendies avec la politique du chéquier ?
Enfin, on le voit un petit peu, effectivement, il y a des réactions très politiques. Dans le même temps, quand même, il y a des ménages qui ont subi des mesures d'économie, c'est les ménages notamment au chômage. Il y a eu des baisses de protection de l'assurance chômage très importantes. Donc, il y a aussi des coupes de dépenses.
Oui, mais on nous demande 10 milliards dans le même temps. Donc
c'est, et puis après, on voit bien qu'on est au coup par coup et qu'on pourrait se poser de manière plus structurelle la question des besoins. Ce qui se passe dans l'éducation en ce moment, c'est-à-dire les difficultés de recrutement, par exemple, on ne trouve pas d'enseignants pour aller recruter, ou dans le domaine de la santé, c'est des choses qui sont pour le coup graves, qu'il faut traiter, et certes avec des moyens, mais avec un plan sur le long terme. Et là, ce qui s'est passé dans les dernières semaines, c'est que pour annoncer des économies, c'est dans les dépenses d'avenir qu'on a annoncé des coupes, transition écologique, éducation notamment.
Béatrice Mathieu, mais on peut faire différemment quand on a des mouvements de contestation comme cela.
Mais oui, parce que le problème, c'est qu'on est dans cette espèce de tyrannie de l'instant et la tyrannie de la victime. Donc, il y a un accident sur un rond-point, vous voyez, on va faire un plan tout de suite pour le rond-point, etc. Il y a un problème, une solution, donc un problème, un chèque, un problème, un crédit d'impôt. Mmh. Et donc, le quoi qu'il en coûte, en fait, qui a été mis en place au début du Covid, finalement, ça fait 2 ans qu'on nous dit c'est la fin du quoi qu'il en coûte, et en réalité, c'est d'une fin... en fait, toute théorique, puisqu'on a, et vous l'avez très bien dit, à chaque fois des dépenses supplémentaires. Mais.
Exceptionnelles, mais qui sont justifiées par ailleurs.
Et voilà, donc, je pense que la question n'est pas tant la coupe que de revenir effectivement sur l'efficacité de la dépense, l'organisation de l'État, l'organisation de l'éducation nationale, l'organisation du système de santé. Et quand on voit à l'hôpital la répartition entre les soignants et les non-soignants, etc., on peut se poser aussi la question de l'organisation de l'hôpital public aujourd'hui.
Et puis il y a peut-être un autre levier, peut-être répugnez-vous à l'évoquer, mais c'est celui des impôts, de la fiscalité. On pourrait imaginer une fiscalité momentanée ou pas sur les super-profits. On a vu les profits du CAC 40 qui sont absolument effarants, 153 milliards cette année, dû à l'inflation notamment. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'envisager un impôt pour répondre à ce besoin de 50 milliards ?
Ils sont déjà taxés, le dividende à hauteur de 30% et puis les sociétés à hauteur de l'impôt sur les sociétés. Donc la taxation existe déjà. Il ne faut pas répéter, Michaël Zemmour l'a très bien dit avant, il ne faut pas répéter les erreurs qui ont été faites en 2008-2010. Ou qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé un choc fiscal, donc un choc austéritaire, et c'est ça qui a plongé la zone euro dans une croissance totalement faible. L'augmenter les impôts, c'est sûr que c'est très facile. Vous mettez 2 points de TVA, vous augmentez la TVA de 2 points, vous récupérez 20 milliards par an.
Mais ça, c'est très inégalitaire. On va vous dire que ça touche tout le
oui,
monde.
Oui, mais là, on est plus. Là, comme vous l'avez vu, on est dans la logique comptable. Je vais vous dire, c'est pas du tout ce que je prône.
Non, mais voilà, mais
je veux dire, d'un point de vue.
Ça serait quand même plus égalitaire, non ?
Ah, on pourrait augmenter la.
Vous voyez qu'AXA fait plus 42%, par exemple.
On pourrait augmenter la CSG, on pourrait augmenter d'autres choses. Après, là, le débat, c'est sur la fiscalité de ces grandes entreprises. Au contraire, quand on regarde aujourd'hui de quoi est-ce qu'on a besoin ? Aujourd'hui, on a besoin d'augmenter notre PIB. On a besoin d'augmenter notre productivité, qui est en chute libre depuis 2019. Notre croissance, c'est pas un mauvais mot, c'est pas un gros mot, on doit augmenter notre croissance. Un tout petit chiffre, l'année dernière, le ralentissement du bâtiment a généré une baisse de recettes de TVA de l'ordre de 5 milliards d'euros. Donc ces 5 milliards d'euros-là, déjà, si on les avait dans les caisses, donc si on avait pris soin peut-être du logement il y a 3, 4, 5 ans, et bien du coup, on ne serait pas en train de les chercher aujourd'hui. Et je pense que c'est la même chose qui est en train de se passer sur beaucoup de secteurs qui sont en train quand même de connaître certaines difficultés conjoncturelles, voire structurelles, et qu'il faut absolument, il nous faut produire, il nous faut tout simplement augmenter le PIB. Tout le reste, c'est de la littérature.
Michaël Zemmour, en même temps, c'est vrai qu'on a l'impôt facile en France. Ou on fait des chèques, ou on augmente les impôts.
Non, c'est pas si vrai que ça. Au cours des dernières années, au contraire, en fait, il y a eu une politique de se priver de recettes récurrentes de manière désordonnée au nom de la croissance et au nom de l'emploi. Donc on a eu le CICE, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais une vingtaine de milliards qui a été pérennisé, qui est toujours là aujourd'hui. Les exonérations de cotisations sur les entreprises, c'est plus de 70 milliards par an chaque année. Et toutes ces politiques-là, il y en a beaucoup d'autres, des baisses d'impôts aussi sur les ménages aisés, la taxe d'habitation, ont été mises en place avec des discours en disant « ça va nous ramener la croissance » et toutes les évaluations qu'on a nous disent « pas tellement ». Donc la première chose, avant de dire « on augmente les impôts », on peut passer en revue les baisses d'impôts précédentes en disant « pas du jour au lendemain, mais est-ce qu'on pourrait pas revenir un petit peu là-dessus pour se redonner des marges de manœuvre ? Ensuite, il y a un secteur qui ne paye pas assez d'impôts, c'est les entreprises souvent les très grandes, mais aussi parfois les petites, qui délocalisent une partie de leurs profits à l'étranger. Au Luxembourg, par exemple, elles ont leur activité économique en France et elles vont délocaliser une partie de leurs profits à l'étranger. Et là-dessus, on ne touche rien du tout. Donc ça, ça peut prendre du temps, mais vraiment, là, il y a une manne à aller chercher.
On peut évaluer le montant de cette manne
Alors, Gabriel Zucman l'a fait, mais ça se compte en dizaines de milliards de pertes de recettes par an. Je n'ai pas le chiffre en tête. D'accord. Mais il y a vraiment des marges de manœuvre. Et sinon, surtout, c'est une fuite dans le système. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas réglé ça, les entreprises peuvent en permanence se réorganiser. Si vous augmentez les impôts, hop, elles peuvent diminuer leurs marges en France.
Béatrice Mathieu, est-ce que le gouvernement ne s'est pas empêché en disant, voilà, il avait un totem, la non-augmentation des impôts. Est-ce qu'il va pouvoir tenir comme ça jusqu'en 2027?
Oui, ben, ça va être très compliqué politiquement. Hein. Je pense qu'on est rentré dans
même
une
baisser
sorte
les impôts pour les classes moyennes de 2 milliards.
Oui, oui, oui. Y a un terme qui a été donné par Thierry Breton la semaine dernière,
le commissaire, en fait, européen.
Le commissaire européen, qui dit « Nous sommes dans une économie de guerre ». Alors, de guerre… sur la défense, de guerre aussi dans les investissements nécessaires à faire pour la transition climatique et
écologique.
Et quand on regarde dans l'histoire, en fait, comment se sont passées les économies, comment se sont financées, en fait, les économies de guerre, eh bien, souvent par de l'impôt.
Aux États-Unis, vous pensez notamment, il y a eu des impositions monstres,
90%. Des augmentations d'impôts par l'impôt exceptionnel, par l'inflation, par la planche à billets, où on a obligé d'une certaine façon, en fait, le système bancaire à racheter des dettes qui étaient émises par les États. Et ces outils-là, pour le moment, on ne veut pas, au niveau européen et au niveau français, les utiliser. Il faudra bien qu'à un moment, si on veut vraiment rentrer dans cette économie de guerre, à la fois pour le climat et la défense, peut-être utiliser des outils qui sont sur la table.
Mais Erwan, est-ce que c'est tenable, justement, au nom de la stabilité fiscale?
Il ne faut pas oublier que la France est le pays le plus taxé du monde. On est déjà les taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde, en tout cas des pays de l'OCDE. La question, ça a été très bien soulevé avant, si jamais, je pense qu'il pourrait y avoir une augmentation d'impôts qui serait consentie par la population, si on voyait l'efficacité derrière. Mais aujourd'hui, pour augmenter les impôts, pourquoi? Pour avoir les professeurs les moins bien payés de l'OCDE, c'est non. Pour avoir les infirmières qui soient moins bien payées de l'OCDE, c'est non. Pour avoir des services publics qui sont malheureusement dans un état de délabrement.
Pour avoir une sécurité sociale qui fonctionne et qui, tous les jours, on s'en rend compte et nous est précieuse.
Bien sûr, qui est un super amortisseur, au niveau du revenu, il n'y a aucun problème. Mais quand vous voyez les services publics derrière, avec effectivement des colères qui ne cessent d'être attisées partout, il faut d'abord, je pense, s'occuper des écuries d'OGIAS que sont justement le fonctionnement de l'État et sa complexité.
Voilà les formules d'Erwan Tison.
Dernière chose, la complexité, l'OCDE nous dit que la complexité en France coûte quand même 60 milliards d'euros par an. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à aller chercher. Mais ça sous-entend qu'il y a certaines normes, certaines rentes, et s'attaquer à certains monopoles.
Les normes, il est lâché le mot. Ce sera pour un prochain débat. Merci à tous les trois d'être venus ce soir et évoquer notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.